Aujourd'hui, nous irons à Marmande, à la plateforme de compostage gérée par l'association Envie Plus. Nous entendrons Jimmy Marshall, chargé de mission, et François-Xavier Mouguet, de la société CISO et Ras du Sol de Vélines en Dordogne. On parlera justement des biodéchets, puisqu'on est à l'heure actuelle dans la récolte des biodéchets pour faire justement du compost. Chose qui devient de plus en plus importante et à régler. Nous irons à Bordeaux, où s'est tenue dernièrement l'Assemblée Générale de l'AFDI, agriculteur français, pour le développement international de la Gironde. Nous entendrons son secrétaire, Claude Duvernex, et Camillou, responsable de l'AFDI au Bénin. À travers les actions justement menées par l'AFDI 33, Gironde, mais pas que, il y a également Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques, des actions menées auprès des éleveurs au Bénin. Ensuite, on entendra justement Jean-Christophe Cousin, directeur des Jus du Soleil, puisque au Bénin, on a une coopérative qui fait des ananas, et les jus d'ananas sont commercialisés par Jus du Soleil de Marmande. Enfin, Pascal Turini, apiculteur sud-Gironde, responsable régionale de la filière apicole, nous parlera de la problématique que rencontre la profession. Alors, je suis sur la plateforme de compostage de Envie Plus, l'association Envie Plus, avec Jimmy Marshall, chargé de mission sur l'aspect biodéchets. Alors, les biodéchets, ça marche ?
Ça marche plutôt bien, oui. Effectivement, on a collecté depuis la rentrée environ 4 tonnes. Composté et collecté 4 tonnes. Donc effectivement, il y en a un peu.
C'est-à-dire qu'au départ, c'était des écoles primaires, c'est ça, sur Marmande ?
Alors on a démarré sur le premier semestre avec deux écoles élémentaires, une association et un EHPAD, ce qui nous a permis de monter en compétences. Et depuis la rentrée, on collecte et traite les déchets de 10 écoles élémentaires, entre autres.
Alors plus la cité scolaire, c'est ça ?
Évidemment, la cité scolaire est rentrée dans la boucle, donc on a co-construit sur le premier semestre et on a démarré la prestation sur le mois de septembre.
Alors ça veut dire que là, c'est quand même au niveau du tri, parce que c'est important, c'est le tri des biodéchets, si on peut avoir des fourchettes, des cuillères dans le compost. C'est capital quand même.
Alors l'idée, effectivement, c'est d'éviter ce qu'on appelle les matières inertes, donc les emballages, les fourchettes, les assiettes qu'on peut ponctuellement retrouver. Mais je vous avoue que le tri est quand même bien fait.
Alors ça veut dire que là, en amont, il y a eu une formation qui a été assurée ?
Alors il y a un accompagnement qui a été réalisé sur le premier semestre lorsqu'on a construit le service pour la cité scolaire. Donc on a réfléchi sur le protocole de tri, sur la fréquence de collecte. Tout ça dans l'idée d'avoir des biodéchets qui sont exclusivement présents dans la poubelle.
Alors ça veut dire que là, on va voir, je pense, l'hôpital, parce qu'il y avait une maison de retraite qui était rentrée dedans, il va y avoir l'hôpital, il va y avoir d'autres structures, vous êtes contacté de partout maintenant.
Alors on est contacté effectivement dans un rayon qui est relativement large, hein, presque tout le département du Lot-et-Garonne et puis l'est de la Gironde. Donc on a beaucoup de demandes principalement sur des établissements scolaires et puis des établissements médico-sociaux ou de l'accueil de personnes.
Alors ça veut dire quoi, le collège de la Réole, c'est...
Alors évidemment le collège de la Réole nous a contactés, mais il est hors du département. On a également été contactés par des établissements du nord du Lot-et-Garonne, donc communauté de communes de Lauzin, on va dire entre Lauzin et puis Duras. Oui. Et on a également le reste de l'agglo, donc à l'est, direction Tonnens, qui nous sollicite.
Et Casteljaloux aussi ?
Casteljaloux évidemment, oui bien sûr.
Ouais. Alors là, il y a 6 mois que ça a démarré, la plateforme, et on a déjà un premier andain qui est en phase de retournement.
C'est ça, oui, qui fait 12 à 13 mètres et qui correspond aux 6 premiers mois d'activité.
Alors au départ, c'est une activité qui a démarré lentement. Maintenant, vous commencez à bien maîtriser la chose.
Alors oui, on s'est formé, on a fait monter les salariés en compétences sur ce premier semestre. C'est vrai qu'on continue à travailler sur l'activité avec ces mêmes salariés. Et donc ils contribuent à l'activité par l'acquisition de ces compétences. Désormais, depuis la rentrée, ils ont pris en charge l'ensemble de l'activité. Ils sont supervisés par un encadrant. Mais on peut dire qu'on est bien monté en activité. Ouais.
Alors ça veut dire que de ce côté-là, il va y avoir d'autres écoles également qui vont rentrer dans le processus sur Val-de-Garonne agglomération.
Alors sur Val-de-Garonne agglomération, oui, on a déjà, on va dire, une tournée de collecte qui se concentre sur Marmande, les écoles de Marmande, et on essaie de proposer des tournées supplémentaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, en direction de Tonneins et puis sur les agglos limitrophes.
Alors ça veut dire que comment ça marche, finalement cette récupération de biodéchets?
Alors Environnement Plus rencontre les établissements qui ont le besoin de collecter. On établit avec eux un diagnostic qui concerne notamment leur production de déchets, les contenants qu'il faut mettre à disposition, les fréquences et les horaires de collecte. Et donc s'ensuit un mois de tests pour confirmer ou non d'ailleurs les estimations de production de biodéchets. Et on ajuste le processus jusqu'à ce que ça colle pile poil au fonctionnement de l'établissement.
Alors ça veut dire que si j'ai des biodéchets, vous passez tous les combien?
Alors ça dépend évidemment de la de l'établissement. Est-ce qu'il possède un local à déchets réfrigérés? Dans ce cas-là, on peut réduire la fréquence et passer par exemple une fois par semaine.
Comme au masse d'ajeuner, c'est ça?
Comme au collège du masse d'ajeuner. Ou alors, si on prend le cas des écoles élémentaires de Marmande qui ont des tout petits locaux, eh bien, il est nécessaire de passer tous les jours.
D'accord. Et alors là, avec des biosaux, comment ça marche?
Oui, alors fonction de la production de déchets et du nombre de convives, évidemment, on met à disposition des contenants qui vont de 10 litres jusqu'à 120 litres.
Alors ça veut dire qu'ici, on apporte donc sur cette plateforme qui est associée avec du broyat?
Oui, voilà. Le principe du compostage est d'associer du broyat de déchets verts avec des déchets alimentaires.
Et donc ensuite on apporte au bout de 6 mois, il faut combien de temps pour arriver à avoir de la matière organique?
En moyenne, un compostage traditionnel comme on le pratique sur la plateforme se réalise entre 12 et 16 semaines. On peut dire qu'à la 16e semaine la matière est valorisée.
D'accord, donc retour au sol avec la proposition finalement d'avoir de la matière organique pour les agriculteurs du coin.
Oui, l'idée serait effectivement que ce compost soit considéré comme un amendement organique par l'obtention d'une norme, et donc il pourrait être utilisé pour amender les sols, donc c'est-à-dire enrichir les sols en matière nutritive.
Alors, de ce côté-là, ça nécessite des analyses de sol, également une référence sanitaire au niveau de la plateforme pour monter en compétence.
C'est ça, il y a deux étapes importantes d'un point de vue réglementaire. La première étape est d'obtenir ce qu'on appelle un agrément sanitaire qui va nous permettre d'augmenter les quantités qui sont traitées sur la plateforme, mais également de diversifier l'origine des biodéchets. La deuxième étape est l'obtention d'une norme qu'on appelle une norme NF, qui va garantir que notre compost est bien un amendement organique.
Et qui peut être utilisé en agriculture biologique?
Alors la norme NF permettra effectivement l'usage en agriculture biologique, oui.
Très bien. Donc on passe à monter en compétence. Parce que là, c'est une plateforme qui est prévue pour combien de tonnes?
Alors, si on démarre sur un flux de 52 tonnes à l'année, comme nous le permet la réglementation, et puis l'agrément va nous permettre de dépasser ce seuil, et on a pour objectif de traiter 200 tonnes par an.
Très bien.
Merci.
Un basculeur de matière évidemment qui vient, dans lequel l'opérateur va réaliser son mélange de déchets verts et de broyat, qui va verser dans le chariot en déneur pour former l'andin, qu'on va venir après dans un second temps des échéances fixes retourner avec un retourneur d'andin CISO.
Alors CISO, c'est une société qui est basée à Vélines, c'est ça?
Tout à fait, oui. CISO, c'est l'entité camarade et bientôt fusionnée d'ailleurs, puisqu'on est en train de passer en société coopérative d'intérêt collectif avec Aura du Sol, qui porte plus le centre de formation. Ça fait maintenant une bonne petite dizaine d'années effectivement qu'on propose des solutions, de la réflexion et des solutions techniques de autour du monde du compostage, de la prévention, gestion de proximité des biodéchets. Et voilà, c'est grâce à CISO qu'on propose des composteurs avec des différents volumes, des composteurs pour des centres-villes, pour un peu partout, pour derrière les hôpitaux, et puis aussi les micro-plateformes de compostage et avec retournement des andins.
Alors quand on parle micro-plateforme, La première, je crois, c'était sur Ribérac, c'est ça ?
Non, la première, c'était Nontron. On reste dans le Périgord, mais effectivement, c'était un peu plus loin. C'était un projet pilote qui fonctionne toujours très très bien. Mais c'est vrai que depuis, ça a fait... Oui, tout à fait, c'était sur un hôpital avec notre ami Pascal Chamouneau qui était à l'époque engagé dans le côté resto engagé et puis qui a voulu pousser le concept un peu plus loin et effectivement un retour au sol de la matière organique pour pouvoir proposer des activités autour de production de compost, de plantation, à destination des personnes âgées, des jeunes autour. Donc c'est la cité scolaire, l'hôpital, et ils récoltent un petit peu tout ça et ils mettent tout ça à composter ensemble sur la plateforme à Nontron. Mais c'est pas la seule. Maintenant, c'est vrai qu'on a Ribérac, on a Saint-Astier. Donc à chaque fois, ce sont des hôpitaux. Hein. C'est toujours pareil. Ce sont des endroits où il y a une grosse quantité de biodéchets.
Plutôt des maisons de retraite, finalement.
C'est surtout une question de volume de biodéchets. C'est-à-dire que là où il y a du volume de biodéchets, bah, il faut des solutions qui s'adaptent à ces volumes-là. Et la micro-plateforme est toute adaptée. Elle propose même aujourd'hui, compte tenu des possibilités techniques, d'aller capter peut-être des biodéchets aux alentours de ces endroits-là qui servent de pôle d'attraction, mais qui peuvent rendre service aux écoles. Donc c'est à chaque territoire d'essayer de s'approprier ces méthodes-là pour pouvoir faire en sorte de produire du compost de bonne qualité.
Donc Dordogne, et on est maintenant en Lot-et-Garonne.
Alors on est en Lot-et-Garonne en ce qui concerne la plateforme de Marmande qui tourne bien maintenant. Et puis aussi sur Bordeaux, une à Lormont, une à Floirac. Enfin ça commence à faire un petit peu partout autour de notre point de ralliement qui est Véline, hein, entre Castillon et Sainte-Foy-la-Grande. C'est vrai qu'on essaye d'avoir un rayon d'action qui nous permette d'intervenir sur une journée, guère plus. On n'a pas vocation à aller retourner des andins à l'autre bout du monde. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaye aussi de développer et de visibiliser ces méthodes-là qui sont extrêmement vertueuses et qui deviennent de plus en plus intéressantes avec les coûts de l'énergie et les coûts peut-être du pétrole qui ne font qu'augmenter. On essaye d'avoir des solutions de traitement local. Et c'est un peu ça l'intérêt de notre process, c'est qu'on essaye de prendre un petit peu tous les facteurs de l'équation là, qu'on essaye tous un peu de résoudre dans nos métiers respectifs. Et nous, on s'en sort pas mal. On arrive à trouver quelque chose d'assez intéressant entre l'énergie engagée et le résultat produit. On témoigne la qualité du site et la qualité du compost produit sur cette plateforme ici à Marmande. Hein. Il suffit de venir y jeter un œil pour se rendre compte qu'effectivement, on a une activité qui est vraiment peu polluante et très écologique.
Et de proximité.
Ah mais c'est de plus en plus la question. Vous savez, quand on travaille depuis plus de 10 ans dans le compostage ou le compostage partagé, on se rend compte que maîtriser le compostage est un savoir-faire. On l'a acquis depuis bien longtemps maintenant, mais la notion de partage, elle est sans cesse renouvelée. Hein, faire ensemble, faire à plusieurs, s'organiser entre différents acteurs institutionnels, privés, particuliers, bien comprendre tout ça, bah, c'est une gageure. C'est pour ça qu'il y a d'un côté des solutions techniques et de l'autre côté des solutions de formation qui sont au cœur du process. Ce que j'aime bien dire souvent, c'est que les Québécois, ils disent ça très très bien. La boîte pour composter, ils appellent ça une compostière. Le composteur, c'est le gars. C'est celui qui fait l'action. Et nous, c'est vrai que c'est au cœur de notre système, c'est l'humain, pour qu'il soit dans les meilleures conditions d'accomplissement des tâches qu'il a à réaliser pour faire un beau compost.
Voilà. Ils ont aussi des dépanneurs, c'est pas mal aussi.
Oui, bonjour François.
Très bien, merci.
Merci à vous.
On est parti, c'était fin juin. S'est embrassé, serré la main. Un pour tous et tous pour un. Et puis chacun a pris son train. On avait tous aussi peur. On s'est juré la main sur le cœur. Qu'on se reverrait avant 10 ans. On s'est revu et maintenant, de temps en temps on s'invite. Même si souvent on s'évite. On se dit bien sûr je m'en souviens. Mais on se rappelle de moins en moins. Ça nous a pas rendu amers. Bien qu'on peut rien y faire, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie qui nous change et qui dérange toutes nos petites idées, surtout, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie qui décide, qui nous file des rides au coin des yeux et du cœur. À quoi ça sert d'aller contre, on perd son temps, et quand on regarde à nos montres, tout à coup on comprend. Y'en a qui ont fait des enfants, y'en a d'autres qu'on dit j'attends. On a tous aimé les femmes, on s'est tous trouvé du charme. On est tous devenus quelqu'un, dans son quartier ou plus loin. Bien sûr on citer tous les noms. On s'est tombé dans les bras. On n'a pas osé dire non. On a dit oui quand fallait pas. Ça nous a pas empêché de continuer à s'aimer. Pour la vie, pour la vie, pour la vie qui nous change et qui dérange toutes nos petites idées, surtout pour la vie. Semblant, ça sert à rien. Chaque jour qui passe, on apprend qu'on peut jouer sans être comédien. À quoi ça sert d'aller contre? Ça sert à rien. Chaque jour qui passe, on apprend qu'on suit tous le même chemin.
Voilà, nous entendons Boulevard Désert pour la vie. Maintenant, nous sommes à Bordeaux, où s'est tenue dernièrement l'Assemblée Générale de l'AFDI, l'agriculture française, pour le développement international de la Gironde. Nous entendons d'abord son secrétaire, Claude Vernex, ancien responsable de la prévention de la mutualité sociale agricole, et puis Camillou, qui est responsable de l'AFDI au Bénin. Camille nous présente bien sûr au Bénin les actions, mais pas que l'AFDI du Gironde, de Lot-et-Garonne, qui eux travaillent pour, au niveau des éleveurs, mais il parle aussi d'entre autres d'une coopérative sur des productions d'ananas en bio. Je suis à l'Assemblée Générale de l'AFDI avec Claude Duvernex, secrétaire de l'AFDI, Gironde. Et on est en train de présenter finalement le bilan de l'année, qui est assez conséquent, avec le Bénin, je crois.
Oui, c'est un partenariat que l'AFDI Gironde a de longue date, depuis 2002, ça fait 20 ans, avec une association d'éleveurs béninois qui s'appelle l'ANOPER, c'est l'Association Nationale des Éleveurs de Ruminants du Bénin. 300 000 membres, qui représentent à peu près 75% du territoire béninois. Et on a mis l'accent sur notre rapport d'activité 2021 sur deux grosses actions qui ont consisté à continuer à suivre en conseil et gestion de troupeaux les éleveurs pour la qualité et la conduite de leur élevage, et en lien avec ce qui est la conséquence, la transformation du lait issu de ces élevages par des groupements féminins, les femmes transformatrices, du lait en fromage, un fromage avec l'appellation Gassiré.
Alors, ce qui est intéressant quand on parle d'élevage, c'est pas les vaches comme on a ici.
Non, là-bas les vaches, les ruminants, c'est les zébus, mais le zébu, c'est pas que ça existe au féminin, hein, donc c'est des vaches zébus de différentes races, hein, et donc bien sûr la production de lait n'est pas de même volume que ce que nous connaissons ici en France, d'une Primochten par exemple, parce que l'élevage au Bénin est caractérisé par les peuls qui ont une tradition de transhumance, et la nouvelle loi d'orientation agricole prise au Bénin va plutôt vers une sédentarisation des éleveurs, avec quand même des problématiques sur le foncier, parce que c'est bien de vouloir sédentariser des éleveurs, mais à condition qu'ils puissent avoir accès à des terres. Et donc une sédentarisation des éleveurs.
Le fait que ça soit sédentarisé, il faut d'abord, il y a des lois par rapport au foncier.
Alors, il faut bien sûr une législation au niveau du foncier. Il faut avoir toute une structure qui puisse permettre cela. Et ça, c'est l'évolution majeure, hein, à laquelle on va se confronter à l'avenir au Bénin. Nonobstant cela, AFDI va continuer à poursuivre son partenariat, à la fois technique, économique, bien sûr, avec la recherche constante de financement pour pouvoir accompagner nos partenaires.
Alors ça veut dire que malgré tout, ici on a la canicule, mais aussi ils ont des problèmes d'eau.
Bah, Bien sûr, les problèmes de sécheresse et puis ne font que s'accentuer. Alors pourquoi il y avait la transhumance? Ben, c'était aussi pour la recherche au niveau de l'alimentation du bétail, mais aussi des points d'eau. Donc cette problématique va s'accentuer. Mais l'interrogation autour du foncier est peut-être aussi un bon moyen de s'interroger pour développer au niveau de puits, de ressources hydriques. Donc il y a toute une recherche qui actuellement est en train d'être menée à ce sujet.
Alors, ce qui est développé, c'est aussi une sélection de plantes pour les pâturages.
Alors, compte tenu de la sécheresse, on ne peut pas envisager des zones enherbées telles que nous les connaissons ici en France ou en Europe, mais au Bénin, il y a une plante qui résiste à la sécheresse, qui s'appelle le panicorme, qui est une espèce de chien dent, mais rustique.
Mais on le voit d'ailleurs, le chien dent, c'est ce qui reste...
C'est ce qui reste chez nous aussi.
Quand tout est brûlé, il y a le chien qui est vert, c'est le chien dent.
Voilà.
Et les terrains de golf dans le sud d'Espagne, c'est du chien dent.
Donc, là, ça prend très bien au Bénin, et il y a des éleveurs convaincus de cette possibilité avec lesquels nous travaillons en tête de réseau pour développer des parcelles sur ce type de pâturage et de montrer qu'il y a une possibilité de faire évoluer l'élevage dans ce sens. Alors dans la zone, avec aussi des pâturages tournants pour que les animaux puissent avoir leur ration alimentaire.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu des échanges qui ont été faits lors du salon d'agriculture à Bordeaux. Au printemps dernier.
Effectivement, au mois de mai, lors de la tenue du salon de l'agriculture à Bordeaux, nous avions pu faire venir une délégation de 3 personnes du Bénin, un éleveur, secrétaire général de sa structure départementale, et 2 techniciens. Un technicien qui suit les éleveurs au travers du conseil en gestion de troupeaux, et une technicienne qui suit les groupements féminins, leur développement pour la transformation et la commercialisation, la transformation du lait en fromage et la commercialisation. Ces échanges ont été très fructueux entre techniciens avec notamment la chambre d'agriculture de la Gironde, les services de la chambre, et nos 2 techniciens ont pu s'enrichir de problématiques qui sont des fois communes d'ailleurs, quel que soit le pays d'appartenance, et ça, on a fait en quelque sorte, si je puis dire, une fertilisation croisée positive.
Alors, ce qui est intéressant, le Covid a créé des problématiques, c'est bien ici, mais aussi chez eux, et que c'était un problème de, une fois transformés, les fromages, c'était pour les commercialiser dans de bonnes conditions. Et là, je crois qu'il y a des choses qui ont été réalisées.
Effectivement, il y a eu une opération qu'on a qualifiée coup de pouce, qui a été en sollicitant plusieurs partenaires financiers, dont le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Ce coup de pouce a consisté à effectivement, puisque pour les transports, dans les transports collectifs au Bénin, le nombre de places était limité, dans les autocars, dans les taxis brousses, et il fallait que les femmes transformatrices puissent continuer à livrer leurs clients, qu'ils soient en ville, sur les marchés, des commerçants, etc. Donc l'opération coup de pouce a consisté à acheter des glacières qui ont permis ainsi de maintenir le maillon, la chaîne commerciale de ce fromage jusqu'à ses destinataires, ces glacières. Le coup de pouce a permis aussi, puisque les coûts de transport du fait du Covid avaient augmenté, puisque par exemple dans un autocar, au lieu de mettre 50 personnes, voire beaucoup plus, eh bien il fallait des espaces sanitaires, donc il y avait moins de personnes et il y avait moins de rentabilité pour le transporteur. Donc à la fois le coup de pouce a porté sur l'achat de matériel et une prise en charge de l'augmentation des coûts de transport, ce qui a permis de maintenir le réseau commercial mis en place par les femmes transformatrices, voire même maintenant de le développer.
Alors on a eu l'occasion, c'est de voir, c'est qu'une femme transformatrice, sa famille, c'est 6-7 personnes, donc c'est par elle que finalement la santé de la vie familiale passe.
Absolument, une femme, ça représente effectivement au niveau de la cellule familiale, ça, on peut le dire comme ça, faire vivre 7 personnes, et au niveau de la santé, bien sûr, la cellule, et au niveau de l'éducation. Donc c'est très très important, puisque les bénéfices engendrés permettent soit d'augmenter des animaux sur les cheptels, mais aussi de favoriser la scolarisation des jeunes et de les maintenir dans les activités au niveau des zones rurales.
Alors vous avez en ce moment été intervenu un des responsables de l'AFDI Bénin, qui est, je crois, vétérinaire de formation, mais c'est le responsable, et donc qui est en ce moment en France. Et je crois que hier, vous êtes allé voir quelque chose de particulier.
Oui.
Et qui va pouvoir apporter un plus de l'eau à votre moulin.
Voilà, nous sommes toujours en recherche et puis de nouvelles relations et, de, et d'échanges. Et c'était lors du salon, d'ailleurs, au mois de mai de l'agriculture à Bordeaux. On avait vu une publication dans notre grand quotidien régional d'une éleveuse, qui habite Lega, en Charente-Maritime, et qui, béninoise, étant épouse d'un éleveur laitier de ce département, qui développe sur son exploitation le fromage gaciré. Et elle fait du fromage gaciré comme il se fait dans son pays d'origine. Et donc, nous avons amené Camilo Waké, notre responsable de cellule du Bénin basé à Cotonou, rendre visite à cette éleveuse et les échanges se sont perpétués. Et elle avait reçu, et se sont poursuivis, et elle avait reçu au mois de mai nos techniciens, où là aussi les échanges techniques, à la fois sur la production du fromage, sur les moules qui sont nécessaires à calibrer les fromages, ou que ces techniques de transformation ont été développées. Donc on peut manger aussi du fromage gaciré en Nouvelle-Aquitaine.
Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un fromage frais, c'est ça ?
Oui, c'est un fromage frais à pâte, mais qui n'est pas conçu comme nous le servons après le plat de consistance au moment d'un repas. Le gaciré est un fromage qui peut accompagner tout au long du repas. On peut s'en sortir, j'allais dire, un peu comme du pain, c'est-à-dire le tremper dans de la sauce avec tous les produits qui caractérisent la cuisine béninoise. Et les Béninois ont l'habitude de consommer tout au long du repas, comme ça, ce fromage qui est assez consistant, mais qui reste au cœur avec un goût de lait très prononcé, très agréable.
Avec une plante qui est... Parce que pour le faire cailler, c'est ça, il y a une plante...
Oui, pour le faire cailler, alors au Bénin, on trouve naturellement une plante qui est le calétropis et qui sert de levure naturelle pour le caillage, pour l'obtention de ce fromage. Bien sûr, le calétropis ne pousse pas sur notre territoire. Donc nous, on fait appel à des levures artificielles, ce qui n'est pas le cas au Bénin.
Très bien, merci. Alors je suis avec Camilo. Camilo, on est l'Afdi. Afdi, on était à l'Assemblée Générale Afdi Gironde. Et là, j'ai le responsable Afdi du Bénin, c'est ça ?
Oui, je suis le coordinateur du bureau Afdi, basé à Cotonou, au Bénin.
Alors là, votre mission, vous êtes, je crois, vétérinaire de métier.
Oui, je suis vétérinaire de formation. J'assure la coordination du bureau AFDI et en accompagnement des organisations paysannes partenaires de AFDI et également en appui aux missions qui viennent régulièrement au Bénin pour suivre donc les partenaires.
La problématique que vous avez abordée à la fin, c'est une problématique, je dirais, de sûreté des éleveurs, surtout dans le Nord.
Oui, c'est surtout le contexte dans lequel ils évoluent aujourd'hui qui n'est pas propre au Bénin. Hein, donc la question sécuritaire qui est au niveau de l'extrême nord bénin, au niveau des frontières du Bénin, du Burkina et du Niger, donc autour des parcs. Mais il faut dire aussi que dans l'ensemble du pays, quand même, il y a une situation qui est assez stable et qu'on espère qu'il va durer. Donc, comment ces éleveurs continuent par exercer leur métier, donc qui est de l'élevage type pastoral transhumant, dans un tel contexte, et voilà un peu les réflexions et donc la problématique qui a été aussi abordée ce matin.
La nouvelle loi, une loi d'orientation agricole qui est quand même extrêmement intéressante, puisque finalement vous avez créé une base comme nous en 1962 en France sur l'agriculture.
Oui, c'est la première loi d'orientation agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle du Bénin que le Bénin vient d'adopter et qui a été promulguée en juillet dernier avec une forte mobilisation donc des agriculteurs à la base des concertations dans dans toutes les localités, dans toutes les régions. La concertation avec les différents acteurs, maillons donc de la profession et également les autres les acteurs partenaires, commerçants, industriels et autres, et qui a abouti donc au vote de cette loi, ce qui est très intéressant et qui donne un cap, qui donne donc une certaine orientation pour notre agriculture.
Dit Gironde, donc travaille sur l'aspect élevage, on a abordé avec son secrétaire. Mais vous, au niveau l'AFDI au Bénin, vous ne travaillez pas que peut-être avec l'AFDI 33.
Non, on ne travaille pas que avec l'AFDI 33. Déjà dans la région Nouvelle-Aquitaine ici, à l'AFDI 47, et le 64, 65. Et voilà, tous qui interviennent à travers des partenariats au Bénin, avec la FUPRO, avec l'USCPA, les producteurs d'ANACAD, le REPAB, les producteurs d'ananas, ADFA Atlantique, qui sont les femmes agricultrices qui sont dans la transformation des produits agricoles, et également les semenciers, donc la Fédération nationale des semenciers du Bénin. Donc voilà, une diversité de partenariats, d'interventions, de thématiques. Voilà.
Alors, il y a un élément intéressant dont on a parlé il n'y a pas longtemps, et on a ici pour le pot, c'est du jus d'ananas qui nous vient du Bénin, puisqu'il est commercialisé à Marmande par les Jus du Soleil, donc une structure qui travaille donc en partenariat avec le Bénin, une coopérative, je crois.
Oui, c'est un partenariat entre cette coopérative Jus du Soleil et une autre usine au Bénin, Jutilou, avec également les producteurs d'ananas, le REPAB. Donc pour la production, la transformation au niveau du Bénin, donc du jus d'ananas bio et sa commercialisation en France par Jus du Soleil. Donc c'est un exemple donc du fruit du partenariat de AFDI au Bénin, un partenariat économique responsable qu'on veut dans le cadre aussi de la responsabilité sociétale des entreprises, qui va respecter les intérêts des producteurs, qui va respecter les questions de l'environnement, qui va respecter un certain nombre de cahiers de charges. Donc voilà un exemple donc de produits, donc des interventions de AFDI au Bénin.
Très bien, merci.
Merci à vous.
Je suis un homme au cœur de lion, à la guerre en toute
monsieur un homme. Maintenant, Jean-Christophe Cousin, directeur des Jus du Soleil à Marmande, nous présente son entreprise. Et justement, on a parlé de Camillo tout à l'heure avec la production de jus d'ananas. Eh bien, ce jus est commercialisé par les Jus du Soleil de Marmande. Alors, je suis au Jus du Soleil à Marmande avec Jean-Christophe Cousin, le directeur, qui va se présenter. Alors, je crois que vous êtes originaire du coin, je crois.
Oui, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Cousin, je suis originaire de Guyon. Et donc, je suis d'origine agricole, mes parents sont agriculteurs dans la zone.
Donc, au cœur du Lot-et-Garonne.
Tout à fait, au cœur du terroir Lot-et-Garonnais.
Et justement, quand on parle de terroir, on va parler justement de jus, puisque la spécificité, ce sont les jus de fruits.
Tout à fait. Donc, la société Les Jus du Soleil s'appelait auparavant Les Jus de Marmande. Les Jus du Soleil ont été créés donc en novembre 2020, mais derrière il y a une grosse historique parce qu'autrefois l'usine était donc s'appelait Pampril aussi. Donc, historiquement, ça a été créé en 1952 pour développer aussi la tomate de Marmande. Aujourd'hui, donc Les Jus du Soleil donc résultent de la prise de participation d'un groupe agroalimentaire breton à hauteur de 60% et donc de la coopérative agricole Terre du Sud basée à Clairac.
C'est-à-dire que le fait d'avoir associé Terre du Sud, donc cette coopérative agricole qui va apporter finalement la partie production et cette entreprise bretonne qui est aussi spécialisée dans l'agroalimentaire.
Tout à fait. Côté Terre du Sud, l'objectif c'est de développer et de sauvegarder notre terroir. Et l'appui du groupe Miréolian est plus pour un côté agroalimentaire, apporter cette expertise pour aider la société à se développer localement.
Alors, ça veut dire que déjà, ici, cette entreprise, elle a un certain savoir-faire, puisque si on commence à aborder, il y a plus de 50 ans que l'entreprise existe. Donc déjà, vous avez un savoir-faire pour la production de jus.
Exactement. On a beaucoup d'employés qui ont une très grosse expérience. La semaine dernière, ma responsable qualité fêtait ses 30 ans dans la société. Donc ça nous donne beaucoup de puissance et on a un savoir-faire sur énormément de produits qui nous permet de respecter un niveau de qualité élevé.
Alors là, votre démarche, c'est quand même vous travaillez sur du local, puisque c'est quand même l'élément capital pour vous, c'est le côté équitable et local.
Exactement. Comme je vous disais, je suis originaire d'ici. Mon but, c'est de développer le terroir. Je connais toutes les richesses du Lot-et-Garonne. On a un ensoleillement idéal, on a des produits de très bonne qualité. Donc mon but, c'est de développer nos produits. Et aujourd'hui, donc 80% des produits proviennent du Lot-et-Garonne ou local pour faire nos jus de fruits.
Votre fer de lance, c'est toujours la tomate de Marmande.
Exactement. Donc la tomate représente le plus gros des volumes. On a donc plusieurs producteurs qui chaque année nous fournissent donc de la tomate bio et conventionnelle pour faire notre jus.
Alors, à côté de la tomate, on va trouver d'autres produits, je crois.
Exactement. Donc, on a notre gamme donc, de jus de fruits qui est donc commercialisée sous la marque Vallée Verte, hein, en grande surface, ou alors au nature, dans les réseaux spécialisés comme Biocoop. On a 23 produits. On a donc, par exemple, la carotte des Landes, les pruneaux d'Agen, la pomme de nos producteurs, le raisin de nos producteurs et la tomate.
Alors quand on dit, si je prends mettons, le raisin, donc faudrait Terre du Sud, ça veut dire que déjà, en plus en bio, ça nécessite des variétés ou des cépages particuliers.
Exactement. On est vraiment sur un produit très unique où la coopérative Terre du Sud a choisi des cépages très anciens, le Villard et le Chamboursin, pour ses capacités donc à résister aux maladies, comme on est sur des produits bio, donc limiter les traitements. Et donc, contrairement à d'autres jus de raisin, nous on est vraiment sur 100% de la vigne et dédié à approvisionner notre usine pour faire notre propre jus. Ce qui donne un goût vraiment unique à ce produit.
Alors, ce qui avait remarqué, pas que le sous-préfet, mais parce qu'on a visité l'usine, dans le cadre du lancement du projet alimentaire territorial, c'est la couleur du jus de pomme.
Alors c'est vrai que ça peut porter à confusion, mais nous on travaille sur un côté naturel, on veut vraiment montrer ce côté terroir. Notre jus de pomme n'est pas filtré, on est sur un jus de pomme trouble que vous pourriez obtenir vous-même en pressant vos pommes chez vous. Ce que vous pouvez voir aussi donc en grande surface, ce seraient des jus qui sont filtrés, où vous avez en réalité enlevé une partie du produit noble pour améliorer la couleur.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur chaque bouteille, on trouve la photo d'un producteur.
Oui, parce que notre but, c'est de mettre aussi en valeur les producteurs qui sont derrière ces jus, qui travaillent au quotidien pour fournir des produits de qualité. On a 53 producteurs autour de chez nous qui donc, ont des parcelles dédiées pour notre création de jus. Les pommes proviennent à 100% du verger et il n'y a aucune pomme qui part donc en pomme de bouche. Toutes les pommes sont dédiées pour faire notre jus afin d'avoir la meilleure qualité de jus de fruits.
Ça veut dire que de ce côté-là, en amont, les techniciens de Terre du Sud sont spécialisés sur la conduite de la production.
Exactement. Donc nous avons un technicien Terre du Sud pour la partie pomme et raisin et un technicien dédié de Terre du Sud pour la partie tomate. On travaille en collaboration toute l'année. Aujourd'hui, donc pour mois de janvier, on doit décider de la semence, combien de semences on va préparer pour avoir les plants prêts à planter au mois d'avril-mai pour se préparer pour la saison. Donc c'est un travail continu sur toute l'année. Et avant de récolter, on va analyser les fruits ou légumes et s'assurer que le niveau de sucre correspond vraiment à ce que l'on veut pour avoir le meilleur jus. Et donc c'est l'usine, nous les jus du soleil, qui décidons au moment où on fait l'extraction pour avoir la meilleure qualité de produit.
Alors à côté de ça, on va trouver des produits comme l'ananas. Alors l'ananas est quand même pas là, quand on dit local, on n'est plus dans local.
C'est vrai, mais derrière il y a toute une démarche équitable. Il y a déjà presque 10 ans, Terre du Sud a apporté son savoir-faire sur la mise en place d'une coopérative localement, où donc Damien sur place est le président de la coopérative, et le but était d'aider à structurer ces agriculteurs au Bénin afin qu'ils puissent donc avoir une homogénéité sur leurs produits, et donc ce produit est transformé localement, et donc il y a donc une certification Max Savlar qui nous permet de rémunérer équitablement les producteurs sur place.
Mais parce que là, on est vraiment dans la démarche équitable entre, je dirais, le rapport nord-sud. Et alors la photo, c'est le président de la coopérative qui est sur la photo de la bouteille.
C'est ça, si vous regardez l'emballage du pur jus d'ananas équitable Vallée Verte, Damien est sur la photo.
Donc ça vient du Bénin.
Tout à fait.
Alors, à côté de ça, donc, on a parlé d'équitable, à la fois, bien sûr, le rapport nord-sud, mais comme vous travaillez, votre principal élément étant le local, vous avez aussi cette démarche équitable par rapport aux producteurs locaux.
Exactement. Les producteurs qui s'engagent avec nous ne peuvent pas s'engager que sur un an. Quand on plante un verger, un pommier, des vignes, il faut s'engager sur plusieurs années. Donc il y a des contrats sur plusieurs années qui garantissent des prix et qui permettent donc de rémunérer au plus juste nos producteurs.
Alors en production, vous avez une capacité de production de combien de c'est un litre, ça marche. Parce qu'on va parler, on va peut-être décliner un peu les différents types de conditionnement et de produits.
Donc principalement, on a donc deux produits. On peut transformer les fruits pour en faire du jus ou de la purée. On parle de plusieurs millions de litres, hein, on est à l'entour de 10 millions par an. Et donc ensuite, ces jus peuvent être soit vendus en vrac en citerne, par exemple pour la tomate de Marmande, ou alors on peut les embouteiller nous-mêmes hein, à notre marque Vallée Verte ou en marque de distributeur, donc pour des grandes enseignes.
Mais c'est-à-dire que là, on a carrément des marques de distributeurs, que ce soit Carrefour, Leclerc, Casino, etc. Et vous parlez aussi, c'est que vous avez, pour les circuits type Biocoop, sous une autre appellation.
Qui s'appelle Au Nature.
Voilà, donc on a, je dirais, deux types. Donc là, vous travaillez principalement avec mise en bouteille en verre, pour déjà, sans parler du vrac.
En grosse quantité, mais déjà, le verre, pourquoi le verre ?
Alors, c'est un choix qui est assumé. Le verre est plus cher, nous coûte plus cher, mais c'est pour le côté éco-responsable, hein, car le verre est recyclé. Et donc, depuis le début, nous avons voulu partir sur ce format d'emballage.
D'accord. Alors, après, vous avez travaillé sur quelque chose, donc, vous êtes à la fois principalement sur des productions bio. Et vous avez été reconnu et primé, souvent pour répondre à un appel à projet, au niveau de votre démarche que vous avez mise avec vos entreprises.
Tout à fait. Donc nos produits, donc, issus de nos producteurs, le jus de pomme, le jus de raisin et le jus de tomate, ont reçu le prix saveur de l'année 2022 pour le côté bio et vertueux. Et donc pour nous, c'était donc une grande satisfaction, une fierté de recevoir ce prix, car ça a été donc suite à un choix des consommateurs. Et donc nous, c'était important de pouvoir mettre en avant ces produits et montrer que derrière, il y avait des gens qui travaillaient tous les jours pour garantir un côté local, un côté traçabilité. Ce qui est important, c'est que avec ces produits, vous savez vraiment d'où ils viennent. On sait que c'est des vergers qui sont dédiés et c'est pas des mélanges de fruits qui pourraient devenir après un jus de fruits. Et vous verrez aussi qu'on a revu donc notre étiquette, on a revu notre logo pour montrer le côté terroir, l'arbre est représenté par deux mains pour le côté coopératif et les feuilles sont en forme de gouttes pour le côté jus de fruits.
Et qui, cet arbre, pousse dans la Vallée Verte.
Exactement, Vallée Verte. Et ce logo a été fait par une société qui est à 5 mètres de chez nous, pour donc promouvoir le côté local. Et les étiquettes viennent d'une société de Marmande.
D'accord, donc on travaille vraiment en local. Alors, votre objectif, on a eu l'occasion d'en parler dans le cadre du projet alimentaire territorial. Vous allez développer d'autres activités au sein de cette entreprise.
Tout à fait. Donc, on veut développer des nouveaux produits comme la fraise, la courgette. On veut aussi surtout valoriser des produits qui seraient donc des écarts de tri qui ne seraient pas valorisés aujourd'hui. Nous, on veut les mettre en valeur, on veut leur donner une deuxième vie et on veut s'assurer qu'on veut éviter le gaspillage, en fait.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes spécialisé sur à la fois les jus et les purées, mais les purées, on les trouve où ?
Alors, les purées, vous les trouverez dans des compotes. Et en l'occurrence, si vous avez une compote de pommes pruneau, il y a de grandes chances que la purée de pruneau vienne de notre entreprise. Car, comme on disait, l'entreprise est très ancienne, elle y a un très fort savoir-faire et on obtient des très très bonnes qualités en purée de pruneau chez nous.
Alors donc, là, vous avez une démarche durable et surtout d'économie d'énergie. Il y a deux choses qu'il y a deux ans, bon, ou trois. Un, le territoire. Deux, une démarche durable par rapport à des économies d'énergie. Et trois, une valeur humaine, l'homme étant au cœur de l'entreprise.
Exactement, vous avez bien résumé la situation. Pour nous, l'important, c'est l'humain et les circuits courts et une politique éco-responsable où on fait attention à gaspiller le moins possible, à économiser l'énergie. Les nouveaux investissements vont de pair. L'année dernière, nous avons changé nos systèmes de chaufferie, d'air comprimé pour moins consommer. Les chaufferies donc, ont été achetées du côté de Nérac, la société Babcock. J'aurais pu acheter des chaudières moins chères venant d'Allemagne, mais pour mon côté, donc circuit court et local, j'ai choisi de travailler avec la société Babcock.
Faire vivre le local.
Exactement.
Tout à fait. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez en collaboration énorme avec les salariés sur finalement l'évolution de l'entreprise. Je dirais, c'est le volet social qui est extrêmement important chez vous.
En fait, sans les hommes, vous n'êtes rien. Donc, il faut qu'on ait une équipe donc performante, motivée. Et notre but, comme l'avait vu le sous-préfet lors de sa visite, il y a des échanges quotidiens où donc on essaye de mettre le, comme on disait, l'humain au cœur de la société et que tout le monde se sente bien au jus du soleil et que donc le travail se fasse dans une bonne ambiance.
Alors la commercialisation, pour l'instant, bon, on parlait de local, mais bon, votre rayon d'action, ça s'étend où là ?
Donc on est présent dans le Languedoc, le Pays Basque, dans la Nouvelle-Aquitaine, tout le Grand Ouest, jusqu'à la Normandie. Et notre but aujourd'hui, c'est de vraiment rayonner autour de chez nous, de parler, donc de laisser que les gens connaissent donc notre nom, parce que historiquement, les Jus du Soleil, Jus de Marmande n'étaient pas trop connus. Et donc aujourd'hui, je veux crier haut et fort qu'on fait des produits locaux, qu'on met en avant les producteurs, et que notre philosophie, c'est de développer le terroir et de montrer aux gens que le Lot-et-Garonne a des produits de très bonne qualité.
Oui, on dit toujours qu'en Lot-et-Garonne, il y a 72 productions et qu'on est quand même la vallée, principalement la vallée, mais pas que la vallée, les coteaux aussi, c'est quand même la spécialité, c'est les fruits et légumes.
Exactement, donc par exemple notre tomate bio va toujours être plantée sur les coteaux pour avoir une meilleure exposition, un meilleur ensoleillement. Donc la conventionnelle sera elle plantée dans la vallée. Donc on essaye d'utiliser au maximum les qualités de notre terroir pour obtenir les meilleurs produits.
Et là, maintenant, vos projets, c'est quoi ?
Continuer à se développer, donc ce projet d'investissement avec la nouvelle machine d'extraction pour développer de nouveaux produits, surtout mettre en avant la fraise. Mes parents étaient producteurs de fraises, donc je voudrais...
Aiguillon était la capitale de la fraise. Hein.
Voilà, tout à fait, donc j'aimerais que ce produit rayonne nationalement, hein, purée avec des non-purées de fraises de Nouvelle-Aquitaine. Et donc principalement, nos projets, c'est de faire parler de nous et de nous développer localement.
Donc, et avec de nouvelles machines, on
dit. Exactement, avec de nouveaux investissements. Et après la première étape de machine d'extraction, nous avons comme projet de renouveler notre ligne d'embouteillage.
Parce que là, vous avez répondu, c'était un peu le président de Val-de-Garonne Agglomération, on disait que vous étiez le premier à avoir répondu à l'appel de projet au niveau de l'État et qui a permis d'avoir des aides et que par la suite, il accompagnerait sur d'autres entreprises au sein de la structure Val-de-Garonne Agglomération.
Exactement, donc pour nous, c'est un peu un honneur d'être les premiers de pouvoir bénéficier de cette aide.
Les premiers de cordée.
Exactement.
Écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Un produit qui est finalement pas très connu, mais qui méritait de l'être beaucoup plus. Je crois que c'est surtout cet aspect-là, c'est d'abord d'être localement, d'être finalement bien identifié. Vallée verte, les jus, alors c'est marrant, les jus du soleil, on est vraiment...
Voilà, c'est pour ça que notre slogan, c'est quand vous buvez des jus du soleil, des jus vallée verte, vous buvez des fruits, du soleil et rien d'autre.
Et du terroir.
Et du terroir.
Merci.
Merci.
Petit portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon bulletin tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien, c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel.
matière. Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse aux pieds d'argile.
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations.
Deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Voilà, nous venons d'entendre Renaud, Manhattan, Kaboul. Maintenant, Pascal Turini, apiculteur sud-gironde et responsable de la régionale de la filière apicole, nous parle de la problématique que rencontre la profession. Je suis à la Chambre d'agriculture et je suis à côté de Pascal Turini, qui est apiculteur et membre de la FNSEA. On est à une réunion d'administration de l'Assemblée générale de l'AFDI, tout ce qui est finalement lié au développement international. Alors, la problématique de l'apiculture, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui finalement.
Non, c'est un très vieux problème et effectivement le renouvellement des colonies et la non-viabilité d'une reine est un problème ancestral. Aujourd'hui, on peut quand même dire que ça s'amplifie. Le renouvellement des colonies est impératif pour être techniquement performant dans les productions de miel. On a régulièrement besoin de renouveler les reines pour garder une dynamique et une capacité à produire qui n'est pas toujours malheureusement au bout de tout notre travail.
Ça veut dire qu'avant, une reine, sa durée de vie était quoi, 3-4 ans?
Alors, le potentiel de vie d'une reine, c'est 7 ans. Le fait qu'elle soit dynamique et productive, on travaillait plutôt sur du 3-4 ans, comme vous dites. Aujourd'hui, pour être vraiment techniquement performant et être vraiment au point, le renouvellement, il est de 50% minimum tous les ans.
Alors, c'est nécessaire dans ces cas-là d'avoir non seulement un cheptel en production, mais un cheptel pour le renouvellement.
Très exactement, oui, c'est ça qu'il faut faire techniquement et anticiper le renouvellement. Ça veut dire que l'élevage se fait sur 3 mois de l'année et il faut en faire suffisamment en nombre pour toute l'année renouveler toutes les reines qui sont improductives au moment des visites.
Alors ça veut dire que bon, si on essaie de regarder un petit peu la filière apicole, c'est 50% de professionnels avec plus de 300-500 ruches et puis 50% peut-être moins de petits producteurs qui font ça avec 30-40 ruches.
Oui, c'est exactement ça.
Et alors là, c'est quand même le bas blesse parce que finalement, on n'a pas les mêmes préoccupations parce que quand on est un petit artisan, je dirais, à ce niveau-là, on fait ça au niveau loisir alors que le reste, c'est un métier.
Alors oui, exactement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont pas le droit d'exercer et qu'ils n'ont pas le droit de faire du business avec leurs petites exploitations. La seule grosse différence, c'est que l'impératif économique de la structure n'est pas du tout le même que pour un professionnel qui a besoin de payer ses charges, ses intrants et ça rentre plus du tout dans le cadre loisir et où on ne compte pas la dépense.
Tout à fait, d'autant que bon, vous faites la transhumance parce que vous êtes basé où juste?
Moi, mon exploitation est basée à Brouqueiran dans le sud Gironde et
qui a été touché par les incendies là.
Pas tout à fait, mais c'est pas passé loin. C'est pas passé loin, donc oui, la transhumance c'est la base pour faire un tant soit peu de miel. Lorsqu'une miellée est mise à mal par un événement climatique ou tout autre événement.